subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna.
Vous rêvez pas, vous êtes bien sur Radio Campus 106,7 FM dans l'émission Campus Lille Info, le magazine consacré à l'Université de Lille. Comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Et c'est sur cette musique colombienne bien intéressante que nous allons aujourd'hui découvrir Mademoiselle Lida Marcela Mendoza, qui est étudiante à l'IAE de Lille et qui va nous parler d'un super projet. Bonjour donc Lida Marcela.
Et bonjour à tous.
Alors, je t'ai un jour rencontré lors de la remise, des prix d'un concours qui s'appelle Concours Vidéo Up Game. Ça se passait à la CCI de Lille. Et puis donc, toi, tu représentais un projet, et notamment dans le cadre de l'IAE de Lille, donc une école attachée à l'Université de Lille. Et un projet dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Et oui, ouais. Du coup, c'est un concours qui s'est fait pour la UBAUS. Ça s'appelle UB Game. Et voilà, j'ai participé dans la catégorie de Bouche ton idée. Et voilà, mon idée, c'est toute simple, c'est développer l'apiculture en Colombie, mais avec le soutien de la France.
Voilà, donc si j'ai compris, hein, quand j'ai écouté ta présentation, parce qu'il y avait une présentation de tous les candidats, et on a pu voir les projets de chacun qui étaient expliqués. D'ailleurs, on a fait des émissions ici dans Campus Lille Info avec d'autres lauréats de ce concours Vidéo Game. Donc toi, tu avais, si j'ai bien compris, présenté une idée d'échange entre des agriculteurs colombiens, je ne sais pas si on peut dire des paysans colombiens, et puis des gens en France qui pouvaient les accompagner dans le développement d'un projet d'apiculture.
Eh bien, bon, ouais, c'est ça. Et du coup, on est en Colombie, on fait partie d'une association, et l'association a une école. Mais à la fin, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour acheter une ruche. Bah, le prix d'un ruche en Colombie, c'est la moitié d'un salaire minimum. Et du coup, il y a des familles qui vivent avec un salaire minimum. Donc, on propose un site internet dont les gens en France peuvent parrainer. Ils vont trouver une famille qui se donne un coup de cœur. Et ils vont parrainer une famille. Et après, ils vont parrainer la moitié d'un ruche. Et c'est nous qui nous chargeons de donner la ruche à la famille.
Voilà, donc. Toi, tu es colombienne, on peut peut-être le dire, ça s'entend un peu.
Ah ouais,
ouais. On parle quelle langue en Colombie?
Comment?
On parle quelle langue?
Oh, bah, on parle espagnol.
Espagnol, hein?
Ah oui.
Donc, tu comprends bien le français, tu es ici étudiante, maintenant, ça y est, tu es presque... Ta deuxième langue, c'est le français, maintenant.
Ouais, c'est vrai que je l'apprécie aussi beaucoup, je l'apprends très facilement.
Ouais. Ouais, l'anglais aussi?
L'anglais aussi, l'anglais, ça va.
À l'IAE, c'est obligé.
Oui.
Voilà, donc tout ça, ça te donne aussi le fait que tu sois en France, que tu connaisses le monde de manière plus large que si tu étais resté évidemment en Colombie. Ça te donne aussi l'idée qu'on peut échanger dans le monde entre gens, on va dire faire un pont entre des personnes qui sont d'un côté de l'océan et de l'autre côté.
Mais du coup, c'est ici en France que j'ai découvert les crowdfunding. Parce que ce que je propose, c'est une espèce de crowdfunding. Du coup, c'est les parrainages, mais c'est les personnes en France qui paient n'importe où, même sur ces sites internet, c'est personne n'importe où. Ils peuvent parrainer un rouge. Donc, mais c'est ça que j'ai compris aussi en France, qu'il y a ces côtés vraiment de partage. C'est ce que j'aime bien ici.
Alors, le crowdfunding, c'est quelque chose qui est né peut-être aussi aux États-Unis avant la France, je ne sais pas. Hein.
Oui,
en tout cas, ça marche bien maintenant en France.
Oui.
Et donc, toi, tu as eu l'idée de créer une page spéciale, crowdfunding, pour cette opération d'entraide.
Oui, c'est plutôt... Le site, c'est un site que ça passe aussi pour montrer comment ça se passe l'apiculture en Colombie, mais aussi, il y a les côtés où les gens peuvent parrainer.
Alors, est-ce que tu es, toi, une spécialiste de l'apiculture, de l'écologie, pourquoi pas ?
Moi, okay, ça, il fallait le dire, mon père, il est apiculteur. Donc, je peux dire que j'ai grandi dans les abeilles, avec les abeilles.
Ça pique ?
Ouais, ça pique, mais ça va. C'est pas si grave que ça.
C'est pas trop grave.
Et donc, moi, j'aime bien. Mon père, il faisait pas mal d'agriculture aussi. Mais il était apiculteur depuis 20 ans. Et là, mon région, c'est une région, vous voyez, 23 degrés presque toute l'année en époque de pluie, mais ça va, la température ne baisse pas trop.
Vaut mieux avoir de l'eau que d'être dans un désert.
Oui, tout à fait. Donc c'est très vert, c'est une région qui est assez riche pour faire l'apiculture.
Quand on parle de Colombie, on imagine peut-être en priorité le café, les plantations.
Oui, le café, la banane plantain. Et aussi les cacao.
Le cacao, oui, bien
et
sûr.
Et maintenant, bientôt, l'apiculture, hein, le miel.
Donc finalement, c'est un pays naturellement, on va dire, riche.
Et oui, on a presque tout. J'ai dit toujours, on a la montagne, on a la neige, même à 5000 mètres, on a la neige. On a les déserts. Dans le nord de la Colombie, on a par exemple les déserts qui arrivent et se rejoignent vers la mer. Et la mer, il a une couleur assez bleue. On appelle la mer de les 7 couleurs. C'est 7 différents bleus. Donc on a aussi la forêt, l'Amazonie. Donc on a un peu tout.
Alors, comment se fait-il qu'un pays aussi riche d'un point de vue des ressources le soit moins d'un point de vue économique ?
Et voilà, là, et ça vient aussi, je pense qu'on est en train de développer. Mais on a aussi des problèmes. On a eu les problèmes avec la FARC. Donc à un moment, beaucoup des ressources sont destinées à la guerre, malheureusement. Mais maintenant, je pense que les gens commencent à avoir la conscience vraiment de la richesse qu'on a. On a dit beaucoup, il y a aussi, il fallait le dire, on a la corruption aussi. Donc on dit qu'on est un pays assez riche, mm-hmm. parce qu'on a beaucoup de corruption et quand même, on a.
Ça fait penser un petit peu, peut-être, hein, à la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de ressources, mais qui est toujours pauvre.
Oui, mais c'est ça qu'on doit se rendre compte, que ces pays, que nous avons tout, mais qu'il faut que nous, par exemple, moi je parle comme Colombien, que nous les Colombiens aussi, c'est à nous de travailler pour notre pays aussi.
Donc toi, quand tu fais des études à l'IAE, hein, où il y a du management, il y a de l'économie, il y a de la gestion, il y a tout ça si on veut faire des études à l'IAE, est-ce qu'après ça peut te donner des ressources pour aider ton pays ?
Voilà, moi c'est ça que je cherche avec l'apiculture, c'est développer la région, c'est aider des gens qu'il y a la pauvreté en Colombie. Et maintenant, il y a la FARC. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le procès de paix qu'on a eu. Donc, l'apiculture, il y a des gens qui ont reçu des terrains. Mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été très jeunes, qui sont partis à la guerre, qui ne connaissent pas beaucoup de travail. Donc, c'est l'État qui est en train de former beaucoup de gens dans l'agriculture. Mm-hmm. Mais ça, c'est aussi de rendre aussi le côté apiculture.
Est-ce que toi, par rapport à, je sais pas, hein, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement la Colombie, d'un point de vue politique, c'est structuré, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un vrai gouvernement, des vraies décisions et que tout le pays est structuré par rapport à ça?
Oui, là, c'est structuré, mais là, on commence à parler de politique et c'est un peu chaud là. Mm-hmm. Oui, maintenant, on vient bientôt des élections, donc ça bouge beaucoup, ça parle beaucoup et on a beaucoup d'inégalités, mais les gens le parlent, et des fois, on ne voit pas les changements vraiment. Donc, j'attends pas beaucoup de changements par rapport à la politique. J'ai dit qu'on doit travailler avec les gens, c'est ça qu'on a. C'est que la politique, des fois, c'est possible.
Alors, toi, tu as la chance d'être formé dans une école prestigieuse, l'IAE de Lille.
Ouais.
Est-ce que là-bas, il y a aussi des universités et des écoles qui s'intéressent aussi à l'économie, etc.
Et oui, par rapport à l'économie sociale, c'est un sujet nouveau, assez nouveau, mais ça bouge, ça commence des gens qui s'intéressent. Il y a aussi des universités, soit publiques, soit privées. Et voilà, mais beaucoup de gens, je trouve aussi, qui quittent le pays. Et c'est dommage pour moi. C'est dommage parce qu'on doit, de toute façon, travailler pour notre pays.
Voilà. Donc, toi, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est que les gens qui sont là-bas, qui auraient besoin d'un peu d'aide pour structurer une activité économique, puissent être épaulés, puisse les aider au départ.
Moi, j'ai peur pour le moment que dans les sujets de l'apiculture. Parce que c'est le sujet que j'ai connu, que j'ai connu l'association en Colombie. Donc on commence à travailler sur ça, mais je me demande pourquoi pas les jours après travailler avec c'est pas les dérivés de produits de la rouge, et travailler plutôt avec des femmes qui sont à la tête de la famille, qui sont des femmes seules, qui ont des enfants, qui ont pas mal de cas comme ça en Colombie.
C'est vrai que toi, si tu te focalises sur l'apiculture, c'est bien parce que c'est un domaine que tu connais, dont tu sais aussi le potentiel, et puis comment on peut aborder des échanges entre une population ici française et puis aussi des gens là-bas. Alors, j'avais vu dans ton projet que les personnes qui aidaient à la réalisation de ces projets pouvaient être en contact, bien sûr, avec un producteur, un fermier, enfin un paysan, comme tu veux, et aussi éventuellement pouvaient y passer là-bas un jour, pourquoi pas faire un tour si ça l'intéresse d'aller en Colombie, voir où en est la ruche qu'il a permis de mettre en place.
Mais vous êtes bienvenue. J'ai dit toujours, les ports de mon pays sont ouverts et on est vraiment de plaisir de montrer aux gens comment ça se passe l'apiculture en Colombie. Et avec les projets, les sites internet, l'idée c'est que les gens puissent échanger, c'est peut échanger des photos, c'est peut les gens peuvent poser des questions. Si j'ai perdu une famille, je sais comment, je vais demander comment ça va se passer. Et l'idée c'est aussi à long terme que je souhaite, c'est de faire des alliances avec des compagnies de voyage. Qu'on peut proposer, je ne sais pas, gagner un prix, gagner un concours, faire un concours. C'est que les gens en France peuvent visiter la Colombie, mais surtout visiter mon village. C'est un village assez perdu, c'est à 5 heures de Bogota. J'ai dit 5 heures pour moi, c'est proche. Là, on est en pays grand. Et c'est assez perdu, on garde beaucoup de notre habitudes. Donc c'est sympa de voir ça, c'est un côté différent.
Alors peut-être tu peux me dire, hein, si moi par exemple j'ai envie d'aller en Colombie, ce que tu me dis là, ça m'intéresse.
Hein,
ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme démarche? Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche? Est-ce qu'il faut un visa? Est-ce qu'il faut, comment ça marche?
Non, et vous le français, si personne n'entend, ça, c'est vraiment la chance. On n'a pas besoin d'un visa. C'est aller, c'est seulement faire les bagages, procurer de la crème solaire. Et voilà, on vous attend.
Donc, pour l'avion, on le prend où?
L'avion, ouais. L'avion, ça fait un vol, ça peut être Paris-Bogota, ça fait 12 heures de vol.
Seulement. C'est pas loin.
On n'est pas loin du tout.
Non, alors pourquoi on n'y va pas plus souvent?
On y va.
Ah ouais, on y va. Donc, là-bas, comme on l'a dit, on parle espagnol, on comprend un peu le français? Non, pas du tout.
Le français, c'est pas long, que c'est assez différent. C'est pas différent de l'espagnol, mais quand même.
Quand même, oui.
Quand même, oui. Je pense que si quelqu'un qui est là-bas, ça arrive à comprendre. Mais sinon, non. Mais sinon, on parle anglais aussi, la plupart.
Donc, quelqu'un, par exemple, qui serait étudiant français et qui voudrait approfondir sa connaissance de la langue espagnole, s'il a étudié l'espagnol, hein. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, là-bas, être étudiant dans une université?
Oui, je sais qu'il y a des échanges des étudiants qui vont là-bas apprendre l'espagnol. Et c'est vrai que la Colombie est connue pour avoir des gens sympas. Et c'est ça que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, en Colombie, les choses qui retiennent plus, c'est la qualité des personnes, sont très accueillantes, très souriantes.
Est-ce que tu peux me dire autour de la Colombie, c'est, les Français sont très mauvais en géographie, hein, quels sont les pays qui sont autour de la Colombie?
Ok, on va faire un petit positionnement géographique. La Colombie, c'est le premier pays où commence l'Amérique du Sud. Donc on voit le canal du Panama. Après, c'est la Colombie. On a à côté Venezuela, on descend, on a Brésil, à côté on a l'Équateur et Pérou. Donc on a accès à les deux mers, à la mer Atlantique et la mer Pacifique d'un autre côté.
Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qu'on entend là et la musique péruvienne?
Et non, plutôt ce qu'on entend, c'est totalement possible. Ça, c'est le nord de la Colombie, c'est les côtés caribes qu'on a, c'est beaucoup gaita, la tambour. Et la musique péruvienne, il a une autre caractéristique différente.
D'accord. Donc, on peut dire que chaque pays a sa spécificité musicale.
Et oui, oui.
Et est-ce que ces spécificités sont entretenues, préservées?
Et oui, maintenant, par exemple, on a El Vallenato, c'est une musique qui est très connue en Colombie, ici pas trop. Et c'est vrai que maintenant, ça commence, c'est un mélange. Donc, on reprend les racines et on fait aussi, on mixe avec les nouveautés. C'est aussi, on va entendre peut-être plus tard, un cumbia, un électro-cumbia. Donc, on commence à mettre les côtés électro à la cumbia. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'ai dansé la cumbia, c'est à l'école qu'on garde ça. On aime bien danser, du coup.
D'accord. Faire la fête ?
Ah ouais, moi tu viens faire la fête. Bon. Tu viens danser.
À quelle heure on fait la fête à Bogota ?
Bah, Bogota, c'est assez différent. Ah, d'accord. Bogota, par exemple, on a 17 degrés. Donc, on part plutôt à voir, mais normalement, et on finit toujours par danser. On se retrouve, on voit. Et après, on finit par danser. Quelqu'un, il met la musique, il met un merengue, un salsa. Et c'est vrai que les gens commencent à danser. Mais dans le nord de la Colombie, c'est vrai que les gens sont plutôt plus dehors. Donc, la fête, il se commence plus tôt et commence très chaud. On peut passer bien la nuit en dansant.
Donc, est-ce qu'il y a des moments dans l'année où il vaut mieux y aller ou pas ? Est-ce qu'il y a des saisons où c'est trop humide ou trop chaud ? Non, c'est...
Et ouais, par exemple, dans mon région, dans les centres du pays, juin, juillet, c'est l'époque de pluie. On a pas mal de pluie, mais maintenant ça change avec les changements climatiques.
Ah
des
bon?
Fois, on n'a pas de pluie.
Ah ouais.
On a la pluie avant, on a la pluie après. Bon. Sinon, dans le nord de la Colombie, c'est super sympa et... Décembre, février.
Ah oui.
Février, c'est le carnaval.
C'est Noël là-bas, alors.
Ah, mais oui. Pour
février,
moi, Noël, ça change
on part
beaucoup
mois
ici.
Et on attend le carnaval.
Ouais,
ça,
carnaval, février, c'est dans l'énorme Barranquilla. C'est super sympa, c'est une bonne ambiance. Tous les gens ils sont dans la rue, tout le monde est ami. C'est super sympa. Et Noël, c'est vrai que c'est différent de Noël. C'est plutôt plus dehors. Moi, le 24 décembre, je danse dans la grande place de mon village.
Et il neige pas.
Ah, il ne neige pas. La neige est aussi beau.
Et donc si tu prends le carnaval de Colombie par rapport au carnaval du Brésil, c'est vraiment différent ou...
Et ouais, par exemple, le carnaval du Brésil, en Rio, on a le samba.
Oui.
C'est différent. Mais par contre, on a beaucoup de ressemblances par rapport à les déguisements. Et aussi, le carnaval de Rio, ça passe aussi dans la grande roue, c'est les concours de samba.
Mm-hmm.
En Colombie, il n'y a pas concours, mais on a quand même les voitures qui sont déguisées et qui se promènent dans la rue.
Alors là, je te propose un titre d'un groupe que tu as choisi, hein, Bomba Estéreo.
Oui, Bomba Estéreo, c'est un groupe dans le nord de la Colombie. Si vous entendez, c'est les côtés, c'est la plage, les côtés soleil, là.
Donc là, on entend une musique, on va dire, plus jeune.
Oui.
Donc là, c'est très apprécié par la jeune génération.
Oui. Oui, c'est un groupe très connu. Et moi, je l'aime bien. Surtout, les paroles sont assez, on va dire, profondes. On parlait beaucoup de les côtés personnes, de les côtés société. Donc moi, j'aime bien beaucoup ces groupes.
Alors, tu sais que là, on a en France des grandes fêtes populaires, notamment à Lille, avec l'île 3000. Est-ce que l'Amérique latine... Bon, là, je vois, ils vont entamer vendredi, enfin, demain soir, c'est le vernissage, un grand cycle autour de Cuba, tu vois. Là, sur l'île, ça va être Cuba pendant 3 mois, là.
Oh, super.
Donc voilà, est-ce qu'on peut imaginer un jour la Colombie comme invitée pour des grandes fêtes populaires
sûr,
à la maison de quartier d'Oisem, par exemple?
Oui, du coup, on a pas mal de Colombiens ici. Donc c'est sympa, moi j'habitais avant en Chambéry. Et là, on a fait un jour, on s'est retrouvé beaucoup de Colombiens. C'était un carnaval, ils sont organisés un carnaval. C'était vraiment un carnaval. C'était super sympa, c'est l'ambiance, moi j'aime bien. C'est quelque chose qui me touche.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, nous sommes en direct avec Lida Marcela Mendoza. Alors, il y a un B aussi, ça, je ne sais pas ce que
ouais.
C'est le B.
pas tout coup, j'ai deux noms, deux prénoms.
C'est
mais
compliqué.
À la fin, j'ai dit Lida Mendoza.
Ça va, ça va, ça va.
Ouais, sinon, ça fait un peu long quand même.
Oui. Et donc, on rappelle, hein, pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, que tu es étudiante à l'IAE de Lille et que tu portes ce projet donc, de parrainage de ruches en Colombie. Est-ce que ce projet a un nom bien précis?
Oui. Et ça s'appelle Apimen. Apimen, c'est l'entreprise, parce qu'en long terme, on attend de faire l'importation de miel en France. Parce que du coup, on a 75% de miel importé en France. C'est que la consommation, c'est plus grande c'est de la production. Et on a aussi, on parlait beaucoup de problèmes avec les abeilles maintenant, qui, bah, ça s'annonce concerné à tous, du coup.
Mmh. Alors, on dit qu'en France, presque 80% des miels sont chinois. Donc, beaucoup d'importations de miel étranger. Hein. Alors, moi, je suis allé en Chine où il y a des producteurs de miel aussi. Hein. Je ne dis pas que le miel chinois est nul. Hein. Je dis simplement qu'on dépend beaucoup d'autres pays pour le miel. Est-ce que vous avez de quoi fournir le marché français en quantité ou pas?
Oui, du coup, pour le moment, on n'a que 20 tonnes. Mais avec les projets de parrainage, l'idée serait de renforcer l'apiculture. Mmh. Et du coup, par rapport à le miel importé, on voit par exemple beaucoup de mélanges de miel. C'est ça qu'on trouve aussi, qu'on dit, ouais, pourquoi pas fournir un produit qu'on sait qui vient directement de l'apiculteur.
Et autrefois, on trouvait hein, des miels très particuliers où les abeilles avaient butiné uniquement ces fleurs, la lavande ou autre part, enfin des arbres ou peu importe. Donc il y avait vraiment une sélection très précise des miels hein, par rapport à leur originalité. Là, on a plus des miels, on va dire, une certaine toute banalité, toutes fleurs. Hein.
Toutes fleurs, on appelle la miel toute fleur. La miel monofleurale, on parlait de la miel de colza, la miel de lavande. Mais du coup, ce sont des miels que l'apiculture met les rouges dans les cultifs. Mm-hmm. Donc, à l'époque de la floraison de la colza, ils mettent les rouges. Mm-hmm. Mais du coup, maintenant, c'est beaucoup de problèmes parce qu'avec les pesticides, il y a beaucoup de abeilles qui meurent. Mm-hmm. Donc, par exemple, on parle de l'apiculture urbaine, qui à la fin, on pense que c'est mieux. Et du coup, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de pesticides en ville.
Ah, oui.
Donc, les abeilles n'ont pas les mêmes problèmes que les abeilles qui ont en grand champ.
Donc, est-ce que, justement, en Colombie, il y a des lieux préservés où il n'y a pas de pesticides?
Mais du coup, j'ai la chance, où je suis née, c'est un village. On fait l'agriculture, mais pas de l'exploitation, pas en grande quantité. Donc, je peux dire, ouais, par exemple, on a les rouges à côté d'un réserve naturel. Mmh. Donc, c'est miel monofloral, parce qu'en Colombie, du coup, on ne peut pas contrôler beaucoup ces périodes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez. On n'a pas les problèmes avec les pesticides. Pas maintenant. Mais je pense que ça aussi, si on ne contrôle pas, si on ne fait rien.
Sauf si ça se vend bien, quand il n'y a pas de pesticides. C'est le marché qui va peut-être dire ça ne sert à rien de mettre des pesticides si on vend plus cher des choses de qualité.
Oui, mais le problème, c'est aussi que les marchés, les habitués, par exemple, on souhaite avoir les fraises toujours grandes et très rouges. Si la fraise il est un peu moche, on ne la mange pas. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut changer, c'est à nous les citoyens d'échanger tout ça, d'accepter que les produits sont parfaits pas tout le temps.
Mais oui, on est responsable en fait de ce qu'on trouve après. Hein.
Et voilà, oui. Mmh.
Est-ce que tu peux m'expliquer entre les miels, parce que parfois je vois des miels liquides et d'autres qui sont plus solides, tu vois, qui sont épais, qui sont presque figés.
Et voilà, c'est un procès qui s'appelle la cristallisation et ça devient pour les glucides, oh là là, c'est moi, je l'ai oublié, les sucrés qu'il y a dans la miel et ça dépend du type de miel. Par exemple, la miel colza, on la voit toujours très fixe, mais c'est les caractéristiques du fleur qui donnent ses caractéristiques au miel.
D'accord.
C'est ça, c'est un procès. Ouais.
Donc, ce n'est pas une histoire de qualité du miel, il peut être liquide
non,
ou pas.
Non, normalement, un vrai miel doit cristalliser.
Ah oui, mais tu prends par exemple les Canadiens qui ont du miel d'acacia, par exemple. Je sais pas, je dis les Canadiens. Pourquoi?
Là aussi, les Français, le miel d'acacia, oui. Hein.
Il est plutôt liquide.
Il est plutôt liquide, mais après, ça dépend. Si vous le laissez longtemps, il va cristalliser.
Ah voilà. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la durée, de la longévité du miel? Combien de temps on peut le garder?
Moi, du coup, ça, c'est incroyable parce qu'il y a un miel qui était encore comestible en Toutankhamon, quand ils ont trouvé le cœur de Toutankhamon, la momie, il avait du miel avec lui. Et le miel, on pouvait le manger. Donc le miel, il est un antibactériel. Il ne va pas jamais périmer.
C'est incroyable.
Mais par contre, on trouve qu'il y a la date de péremption, c'est par rapport à la loi, qu'il demande qu'il soit qu'il a une date, qu'il c'est un an, deux ans, je ne suis pas sûre. Mais sinon, on peut la manger toujours.
Oh.
Bah, la miel, c'est un produit exceptionnel, c'est incroyable.
Alors, tu peux peut-être maintenant m'expliquer l'histoire du, tu sais, des, de la gelée royale, par exemple. Tu vois, la gelée royale.
Oh, voilà, la gelée royale, il y a une caractéristique avec les abeilles. Il sait que dans les abeilles, on a trois familles, on va dire. Donc, il y a la reine, qui c'est la seule qui peut pondre. Il y a les ouvriers, qui sont qui on voit dans la maison, qui vont butiner. Il y a les faux bourdons, qui sont les mâles. Donc la reine, il est nourri avec de la gelée royale. Donc c'est pour ça qu'il va grandir, il va être plus grand, on ne va pas la remarquer pour sa taille. Donc la gelée royale, c'est un produit assez exceptionnel en France, de toute la consommation. Et ici en France, c'est produit seulement que 1%. Ce qui reste, ça, c'est importé aussi. Mais c'est, il faut avoir certains, comme je dis, c'est un travail différent. Quand on produit du miel ou qu'on produit la gelée royale.
Quand on prend la gelée royale ou quand on prend le miel dans les ruches, est-ce qu'on prive les abeilles de leur nourriture?
Les abeilles produisent la miel pour se nourrir, mais ils produisent toujours beaucoup plus. Donc ce qui fait l'apiculteur, c'est de laisser des abeilles développer, mais il prend une partie de la miel. Mais il faut les laisser quand même une partie pour qu'ils mangent, pour qu'ils passent l'hiver.
Donc je suppose que quand on les prive de nourriture, elles en fabriquent plus.
Oui, ils vont toujours fabriquer, mais ça dépend aussi des... On prend aussi par rapport à comment c'est. Si on voit qu'il y a beaucoup de plantations, qu'il y a beaucoup de fleurs, ben on peut prendre. Mais si c'est presque l'hiver, là, il n'y a rien, ils n'ont rien à manger. Donc c'est pour ça que je vous invite du coup à planter. À planter, si vous avez un jardin, gardez les pissenlits qui vient, gardez-les parce que c'est la nourriture. Et pas seulement que pour les abeilles, pour tous les pollinisateurs. On parlait des bourdons, on parlait des guêpes, on parlait de tous les insectes, on parlait des bombilles, il y a beaucoup d'insectes.
Alors, en général, les ruches, ou les ruches, enfin, les ruches, elles sont entretenues, elles sont dans des endroits bien précis. Est-ce qu'il y a aussi des ruches sauvages? C'est quoi l'intérêt éventuellement des ruches sauvages?
Et du coup, il y a, par exemple, il y a différents types de ruches. Bon, il y a des abeilles sauvages, par exemple. Il y a l'abeille, l'Apis mellifera, c'est l'abeille qui produit des miels, c'est l'abeille domestique qu'on appelle. Bah, il peut vivre aussi sauvagement, il peut vivre dans les arbres. Mais aussi, il y a un autre type d'abeille qui c'est l'osmie, c'est une abeille sauvage qui, à cette époque, vous la voyez beaucoup. Il y a beaucoup d'abeilles sauvages aussi qui ne produisent pas de miel. Mais sinon, il y a des différents, chaque pays, il y a des différents types de rouges de production des abeilles.
D'accord. Voilà, ben je pense qu'on en sait un peu plus maintenant sur le monde merveilleux de l'abeille, qui ne pique pas forcément.
Bah, l'abeille pique pour se défendre.
Ouais.
Si un abeille vient maintenant, il ne vient pas pour nous piquer, il vient pour faire connaissance.
Bon.
Donc il va se poser, mais il va pas piquer, donc il ne faut pas avoir peur.
D'accord. Les colombiennes, c'est pareil?
Ah, les colombiennes sont un peu plus agressives. Hein. L'abeille colombienne, c'est un abeille africanisé, donc il est un peu plus agressif.
D'accord. Alors, donc, on va rappeler peut-être une adresse d'un site web ou d'une page où on peut retrouver tous ces éléments.
Moi, par exemple, j'ai fait mon stage à une entreprise qui s'appelle Bicité. Bicité, il fait l'apiculture urbaine. Donc, si vous voulez, vous pouvez taper bicité.fr. C'est super sympa de voir ce qu'ils font. Ils font beaucoup la sensibilisation aux biodiversités, à l'environnement aussi, en général.
Donc, ça complète un peu ce qu'on s'est dit là. On a des infos.
On a des infos aussi. Sinon, soyez curieux, toujours. Soyez curieux. Regardez les jardins. Regardez maintenant que ça pousse. On les parle. Il faut regarder. Il y a pas mal de insectes maintenant, des plantes qui sortent. Il faut profiter.
C'est marrant. Tu as une vision très particulière du printemps, finalement. Pour toi, c'est les petites bêtes, les abeilles, tout ça.
C'est le démarrage.
Nous, c'est les fleurs.
Mais il faut voir si on passe toujours par un parc et si on se prend 2 minutes, on regarde. Tiens, il y a un bourdon, il y a une abeille. Il voit un abeille, comment il fait avec ses pattes dedans de la fleur. Il bouge tous les pétales pour rentrer à prendre le nectar. Ah, mais c'est beau.
Ah, d'accord.
Mais il y a des petits détails qui on passe toujours, on jamais les voit. Bah, c'est la vie à la fin.
Mais écoute, Lida Marcella, c'est un grand plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui. Hein. Et donc, si on veut aider tes amis colombiens qui sont là-bas et qui veulent développer leur petite ruche, comment on fait?
Et voilà, pour le moment, je suis en train de monter les sites internet. Donc, pour le moment, je n'ai pas une adresse. Bon. Donc, je reviendrai.
Oui, bien sûr. OK, bah, écoute, je te souhaite une... Donc là, tu es en M1, Master 1 à l'IAE. L'année prochaine, encore une année. Et après... Et après,
c'est les M2. Donc, oui. Après, l'année prochaine, j'ai fait entrepreneuriat et management par projet. Donc, l'année prochaine, ça va être l'année où je développe toutes les entreprises. Donc, c'est tous les programmes, c'est tous les marchés. Maintenant, c'est à l'attaque.
Bon, c'est stimulant tout ça.
Oui, c'est super.
Je te sens plein de vie, d'énergie, d'envie.
C'est comme ça. Les cours sont très super. C'est sympa. Ça bouge. J'ai aussi des camarades qui sont aussi des projets. Donc, c'est vrai que c'est une ambiance assez stimulante.
Merci beaucoup, Lida Marcella. Et tu es la bienvenue quand tu veux à Radio Campus.
Merci
pourquoi
beaucoup.
Pas faire un jour une heure de programmation de musique colombienne.
Ah, voilà, on attend un bon soleil. Là, on démarre. On va danser.
Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye,